Un petit vue d'Europe. Et dans Vue d'Europe, on va s'intéresser au dernier remous autour du concours Eurovision de la chanson avec Nemo, le candidat suisse qui a gagné il y aura bientôt 2 ans de cela, dont la famille a été en partie nazie pendant la guerre. Il a également, il s'est fait remarquer en ayant rendu son trophée à cause de la participation d'Israël à l'édition qui va suivre, c'est-à-dire celle de cette année 2026. Alors, on s'est adressé à notre monsieur Eurovision maison, il est toujours là et il adore ce concours Eurovision de la chanson, et s'il y a bien une personne qui connaît tous les secrets d'Alcôve, c'est bien lui. On retrouve Anthony donc à votre micro, Lise.
Anthony, bonjour.
Bonjour Lise, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, une chute de piédestal brutale pour Nemo. Il est donc en plein milieu d'une tempête médiatique qui mélange le passé nazi de sa famille et son militantisme radical. Racontez-nous, Anthony.
Eh oui, en fait, le conte de fées s'est transformé en un dossier assez sombre, en fait. Tout commence par une enquête de l'hebdomadaire suisse La Weltwoche, et on y apprend que derrière l'image de l'artiste non-binaire, inclusif, humaniste, se cache en fait un héritage familial pour le moins encombrant. Imaginez l'ancêtre direct de Nemo, l'industriel Arnold Mettler-Specker, dont le nom de famille de Nemo est en fait un Nemo Mettler, était si proche du Troisième Reich qu'on le surnommait à l'époque Hitler Mettler. Il finançait activement le mouvement fasciste suisse, et plus grave encore, le grand-oncle de l'artiste s'était engagé volontairement dans la Waffen-SS avant de mourir au combat sur le front de l'Est en 1941. Une famille qui, sur les archives, est restée fidèle au Führer jusqu'au suicide du patriarche à la Libération.
Alors, évidemment, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux pour dire que Nemo n'était pas responsable des actes de ses ancêtres. Pourquoi c'est ressorti avec tellement de force tout de même, Anthony?
Parce qu'en fait, c'est le grand écart idéologique qui choque. Nemo est aujourd'hui l'un des critiques les plus virulents d'Israël. On l'a vu récemment sur les réseaux sociaux, accuser le pays de génocide. Et il a, comme l'a expliqué Didier, voulu rendre son trophée à l'Eurovision pour protester contre la participation israélienne au concours. Et c'est là que le bât blesse pour une partie de la presse et de l'opinion. Des observateurs, comme l'ancien élu Christophe Morgueli, ne mettent d'ailleurs pas leurs mots. Ils voient dans l'obsession de Nemo contre l'État juif une forme de continuité familiale déguisée en progressisme. On lui reproche une profonde hypocrisie, prenez l'inclusion universelle tout en menant une campagne de boycott assez musclée, acharnée contre les artistes israéliens, au seul motif qu'ils soient israéliens.
Alors justement, en fait, ça veut dire que c'est la question de sa légitimité morale qui est posée, c'est bien ça, Anthony?
Exactement. Nemo s'est construit une image de pureté militante et ses révélations sur son arbre généalogique viennent percuter ses prises de position actuelles. Si personne ne lui demande de s'excuser pour son grand-oncle SS, beaucoup estiment qu'il pourrait au moins avoir plus de nuances et de retenue plutôt que de constamment souffler sur les braises de la polarisation et de la haine.
Alors, ce qu'il y avait aussi qui choquait, Anthony, c'est le silence qu'il avait entretenu sur le rôle de sa famille pendant la période nazie.
Exactement, quand je regarde un petit peu les anciennes coupures de presse, quand il a gagné, on s'est vraiment focalisé sur le fait qu'il était non binaire et des choses comme ça, mais jamais ça n'est ressorti. Alors que pourtant les recherches historiques étaient déjà bien parues à l'époque, donc son nom de famille était assez connu, et donc clairement beaucoup de journalistes à l'époque ont un petit peu mis ça sous le tapis et n'en ont pas parlé à l'époque, mais les recherches étaient assez claires puisque clairement son grand-oncle était célèbre dans les milieux nazis à l'époque, pendant la guerre.
Ce qui veut dire donc, Anthony, que Nemo ne pouvait pas ignorer le passé nazi de sa famille.
Correct, correct. Il est assez impossible. Il y avait beaucoup de recherches. Son nom de famille était assez célèbre pour des mauvaises raisons. Donc lui devrait savoir. Et c'est ce que vraiment beaucoup de gens lui reprochent pour l'instant. C'est vraiment, il devrait vraiment avoir plus de nuances et vraiment pas constamment être obsédé par la question israélienne et faire tellement de bruit.
On se rappelle effectivement qu'il avait été filmé en train de se détourner de Eden Golan pour ne pas la regarder. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Alors, ma dernière question, ce sera sur l'édition prochaine qui arrive. On dit en Israël que c'est Yuval Raphaël qui va écrire la chanson israélienne qui devrait représenter l'Eurovision 2026 et être chantée par Noam Bétan. On est très fiers, Anthony, d'avoir ce francophone pour représenter Israël cette année.
Oui, clairement, il a une magnifique série dans Kochav Haba, il a fait des magnifiques chansons, les gens sont très contents qu'il ait gagné, il a beaucoup de talent, c'est clair, il va chanter en trois langues. La chanson est en fait écrite par trois personnes, dont en effet Yuval Raphaëli. Elle a écrit la chanson avec deux autres, Tzili Cliffy et Nadav Aharoni, et la chanson a déjà été écrite, elle a déjà été approuvée, et elle ne sera publiée que le 5 mars, 4 jours avant la date limite placée par l'IBU pour avoir toutes les chansons d'Eurovision, donc à peu près 2 mois avant l'Eurovision. Et donc le 5 mars, après les nouvelles le soir sur Cannes 11, vous pourrez avoir la chanson et à mon avis elle sera publiée sur YouTube très vite, très vite après ça.
Pourquoi attendre la dernière minute comme ça, Anthony? C'est une stratégie pour Israël? Alors, on dit qu'ils sont très bien placés dans les sondages pour cette année.
Alors, ils sont d'ailleurs favoris cette année. C'est ça qui est un petit peu assez... Ils ont 11% de chance de gagner. Donc, ça paraît pas énorme, mais c'est numéro 1 des tableaux. Donc, ça se fait souvent, en fait. On essaie un petit peu de voir ce qui va... C'est assez malin parce qu'on peut voir un petit peu quelles autres chansons vont être publiées et voir si éventuellement on peut faire certains changements d'arrangement. Donc, voilà. Moi, je pense qu'en général, ils sont en général assez clairs sur ce qu'ils veulent faire. Mais parfois, si ils veulent faire quelques petits changements, ils se donnent le temps de le faire jusqu'à la date limite. 4 jours. Il y a même parfois des pays qui ont leur présélection le jour même de la limite. Donc on a le gagnant qui passe à la télé, qui est sélectionné et directement par les bio. Donc ça, c'est pas tout à fait étonnant. Pour l'instant, je pense qu'on a que trois chansons sur 40 ou 37, on va dire, pays qui participent. Donc on a un mois de la date limite et on a encore très peu de chansons. Donc la plupart des pays, en général, envoient leurs chansons assez tard. La Belgique était à l'époque une des premières à donner sa chanson vers décembre-janvier, mais même ça a un petit peu, c'est plus vraiment le cas. Donc en général, la plupart des pays poussent vers la date limite.
Merci beaucoup Anthony pour tout ça. On suivra évidemment cette Eurovision 2026 avec vous. Bonne journée, à très vite.
Merci à tous, bonne journée.